ces produits, ce fil-là. Et c'est d'autant plus vertueux que quand on fait pousser du coton, là, le plus gros impact environnemental, évidemment, c'est l'utilisation d'eau. Puisqu'il faut de l'eau pour faire pousser le coton, laver, etc. Et donc, on a une belle économie au niveau de notre empreinte écologique, carbone, environnementale.
Effectivement, et ben parfait, ce cercle vertueux pour terminer cette France Bouge. Merci beaucoup à chacun de nos invités. C'était un plaisir de vous avoir. Merci Philippe, bien évidemment. Merci à Corinne Reich de l'autre côté de la vitre pour la réalisation de l'émission, ainsi qu'à Diana Ngoma et César Dian pour la préparation. Et puis, ben, j'ai le plaisir de vous retrouver demain à 21h, dans un instant sur Europe 1. C'est le journal de 22h avec Maïla Sani.
Europe 1, 21h, 22h, Aurélien Fleureau.
Vous écoutez Europe 1, il est 22h.
Europe 1 nuit. Maël Hassani.
Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accompagner en ce mercredi soir pour Europe 1 nuit jusqu'à 22h30. À la une de votre journal, les États-Unis vont-ils intervenir en Iran? Le monde entier attend la décision de Donald Trump, alors que dans la République islamique, les forces de sécurité répriment dans le sang les manifestations contre les mollahs depuis maintenant 18 jours, des milliers de morts selon les ONG. Europe 1 à Washington dès le début de ce journal. Une mission militaire européenne au Groenland dès demain et jusqu'à samedi. Des soldats français et allemands seront mobilisés, entre autres. Objectif, soutenir le Danemark face aux visées de Donald Trump sur le territoire arctique. Les détails dans quelques instants. Dans ce journal également, peut-être une première victoire pour Marine Le Pen au procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Et puis le choc à la maison d'arrêt de Lons-le-Saunier dans le Jura au lendemain de la découverte d'une arme à feu dans la cour de promenade. Le monde entier regarde vers la Maison Blanche ce soir. Une question sur toutes les lèvres. Les États-Unis vont-ils intervenir en Iran pour faire cesser les massacres de manifestants mobilisés depuis 18 jours contre le régime des mollahs? Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Washington. Le président américain a-t-il pris sa décision?
Écoutez, pour l'instant, il semble vouloir jouer la montre. En fait, depuis des jours, Donald Trump ne cesse de parler de ligne rouge pour le régime iranien. Celui-ci doit impérativement arrêter de tuer des manifestants sous peine de provoquer une réaction militaire des États-Unis. Mais comme vous le disiez, Téhéran continue ses massacres. Difficile à l'heure actuelle d'avoir un chiffre précis, mais les morts se compteraient en milliers. Le président américain semble donc dos au mur. À la sortie d'une réunion il y a quelques instants, il a cependant annoncé que les tueries avaient cessé en Iran et qu'il tenait ses informations de sources sûres. Mais comme d'habitude avec Donald Trump, cela ne signifie pas qu'une opération militaire ne serait pas imminente. Selon la presse américaine, des frappes imminentes justement sur des cibles du régime iranien seraient envisagées. Ces dernières heures, Washington aurait évacué une partie du personnel de sa base d'Al-Udeid au Qatar et aurait déployé un navire destroyer dans la région.
Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Et depuis le début de la révolte en Iran, la répression des forces de sécurité est implacable. Au moins 3428 morts selon l'ONG Iran Human Rights, des dizaines de milliers si l'on en croit d'autres estimations. Amnesty International évoque ce soir des massacres d'une ampleur sans précédent. Et à l'instant, le ministre des Affaires étrangères iranien annonce à la télévision américaine, je cite, « Nous avons le contrôle total de la situation dans le pays ». Admiratif du courage de ses compatriotes, Nazila Maroufa, journaliste iranienne en exil en France, n'est hélas guère étonnée par la cruauté du pouvoir théocratique iranien. Cette jeune femme l'a vécu dans sa chair en 2022 lorsqu'elle enlevait son voile pour défier les autorités après la mort de Mahsa Amini. Laura Legault l'a rencontrée pour Europe 1.
Sur le bras de Nazila Maroufa, ces chiffres sont tatoués. 209-23, c'est le numéro de la cellule de la prison d'Evin, où elle est restée enfermée pendant plusieurs mois à l'isolement.
Violence physique, violence sexuelle, c'est pire que ça, vraiment, parfois, pour forcer quelqu'un, pour dire « oui, je suis espionnage ».
Pour forcer les prisonniers à passer aux aveux, le régime simule même leur exécution. Nazila Maroufa, les larmes aux yeux, se rappelle aussi des autres sévices subis par ses co-détenus.
Quand j'étais à la prison d'Evin, j'ai rencontré une fille. Elle a été transportée 3 fois à l'hôpital psychologue. Ils ont dit qu'ils m'ont forcée pour prendre les médicaments. Ils ont utilisé les chocs électroniques.
Des violences physiques, sexuelles, mais aussi psychologiques. Le régime fait pression sur les familles.
Ils ont forcé ma famille pour aller dans le bureau de rendez-vous. Ils menacent toujours ma famille, toujours mon petit frère.
Et même en exil, Nazila se sent toujours menacée par le régime. Mais elle l'affirme, elle continuera de se battre pour la démocratie en Iran.
Laura Legault, et nous reparlerons de cette situation en Iran, de ces massacres, mais aussi de cette potentielle intervention américaine à partir de 22h15 avec l'invité d'Europe 1 Nuit, le journaliste spécialiste de l'Iran, Nasser Etemadi. L'autre dossier majeur dans l'actualité internationale, c'est le Groenland. Les États-Unis restent déterminés à s'emparer de ce territoire stratégique administré par le Danemark. Une réunion cruciale avait lieu à la Maison-Blanche tout à l'heure entre hauts responsables américains et danois. Et à la sortie, Caroline Baudry, les différentes parties n'ont pu que constater leurs divergences.
Oui, un désaccord fondamental, ce sont les mots du ministre danois des Affaires étrangères qui concède ne pas réussir à changer la position de Washington qui maintient la pression. Peu avant la réunion, Donald Trump écrit sur son réseau Truth Social : les États-Unis ont besoin, je cite, du Groenland pour des raisons de sécurité. Il fait alors référence au Dôme d'Or, ce gigantesque projet de bouclier antimissile. Toujours sur les réseaux sociaux, la Maison-Blanche publie un dessin. On y voit deux traîneaux qui symbolisent le Groenland et face à eux, deux destinations : l'Amérique sous un grand ciel bleu ou la Chine et la Russie. Il n'y a ni navire ni investissement chinois au Groenland, a réagi le ministre danois, qui annonce toutefois un groupe de travail en collaboration avec les États-Unis.
Caroline Baudry, les visées de Donald Trump sur le Groenland se confirment donc et les Européens décident de réagir en annonçant une mission militaire.
Oui, en soutien à Copenhague, des militaires de Suède, d'Allemagne et de France vont participer à cette mission au Groenland, dont les détails restent pour l'heure inconnus. Le Danemark tente ici d'amadouer Washington. Il promet de renforcer sa présence militaire. Rappelle avoir déjà investi 12 milliards d'euros pour cela et se dit prêt à une présence accrue de l'OTAN. Des efforts tourné en ridicule par Donald Trump. Une attaque américaine sur l'île convoitée sonnerait la fin de l'OTAN, avait alerté son homologue danoise, puisque les trois parties appartiennent à cette même alliance militaire.
Caroline Baudry, 22h06 sur Europe 1. Sébastien Lecornu sauvé. Les deux motions de censure déposées contre le gouvernement par LFI et le RN ont été rejetées aujourd'hui par l'Assemblée nationale. On en parle dans un instant.
Leclerc, bonjour.
Oui, elles sont super bonnes, vos pommes dame rose.
Merci, mais vous parlez des Pink Lady ?
Bah, elles sont françaises, non ? Alors moi, je dis dame rose.
Après tout, ce qui compte, c'est le goût. Et du 13 au 17 janvier, les pommes Pink Lady françaises sont à 1,99€ le kilo, avec 10% de tickets Leclerc en plus sur tous les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Variété Crips Pink, catégorie 1, calibre 170, 200 grammes, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Renault.
Vous connaissez Clio depuis 35 ans, mais saviez-vous qu'elle est aussi la muse de l'histoire depuis la nuit des temps? Aujourd'hui, Renault écrit un nouveau chapitre. Nouvelle motorisation full hybride e-tech 160 chevaux sans recharge. 1000 km d'autonomie, open air link avec Google intégré et plus de 100 applications. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, découvrez nouvelle Renault Clio.
Jusqu'à 1000 km avec un plein d'essence, donnez WLTP en option selon version, voir Renault.fr. Pensez à covoiturer. Renault.
Europe 1 Nuit. Maël Hassani.
Vous écoutez Europe 1, il est 22h08, la suite de votre journal. Pas de surprise aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les deux motions de censure déposées par le RN et LFI rejetées par les députés. Sébastien Lecornu reste en place, mais pour combien de temps le Premier ministre pourrait en effet être renversé à l'issue des débats budgétaires si l'exécutif décidait de passer en force? Ce qui paraît inévitable, Jacques Serret, tant le président de la République souhaite accélérer le processus.
Emmanuel Macron veut aller vite. Le président a fixé une limite, la fin du mois. Il faut un budget en janvier, martèle son entourage. Ce budget est attendu par les Français, mais aussi par les marchés et nos partenaires étrangers, insiste un conseiller. L'Élysée presse pendant que Matignon est à la manœuvre. Le budget était sur la table du Conseil des ministres. Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, relate les propos de Sébastien Lecornu.
Il a insisté sur le fait que, vous le savez, l'impératif de réduction du déficit demeurait. Il doit être inférieur à 5%. Et qu'en tout état de cause, ce qui fait le compromis, c'est le fond et non la procédure parlementaire. Il a d'ailleurs précisé que le fond devrait être clarifié, coûte que coûte.
Mais sans compromis, l'exécutif n'aura d'autre choix que de passer en force. 49-3 ou ordonnance, peu importe, assure l'entourage d'Emmanuel Macron. Le président est neutre sur le dispositif. Seul compte le résultat, glisse l'un de ses proches. Manière, une fois de plus, de renvoyer la balle vers Matignon.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1 est en plein débat budgétaire. Bercy mis en difficulté par un ancien locataire. En début de semaine, Éric Lombard jetait un pavé dans la mare en assurant, je cite, que des milliers de personnes parmi les plus fortunées ne paient aucun impôt sur le revenu. Interrogée à ce sujet aujourd'hui à l'Assemblée, la ministre des Comptes publics dément cette information. Si c'était le cas, cela fait bien longtemps que cette situation aurait été dénoncée et corrigée, a affirmé Amélie de Montchalin. Un bon signal pour Marine Le Pen au deuxième jour du procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Le parquet général demande aujourd'hui le retrait du dossier de plusieurs contrats de collaborateurs. Des contrats qui ont joué un rôle dans la condamnation de la chef de file du RN en première instance. Maïalène Trémollet, si la Cour accède à cette demande demain, ce serait une première victoire importante pour la défense.
Oui, ce matin, dans la salle d'audience, Marine Le Pen ne peut s'empêcher de hocher la tête en signe d'approbation quand son avocat Rodolphe Bosselut salue l'honnêteté du parquet général.
C'est un soulagement et c'est ce soulagement que je note aujourd'hui. Les choses sont appréhendées avec beaucoup plus de sérénité et moins d'hostilité.
Concrètement, cela signifie que le parquet général considère la chef de file du RN à l'Assemblée injustement condamnée en première instance et que si la Cour d'appel lui donne raison demain, le Parlement européen sera contraint de rembourser une partie du million d'euros déjà payé par le RN. Un début de procès pour l'instant plutôt favorable au parti, qui peut donc espérer une véritable seconde lecture de son dossier et aborde les semaines à venir avec une nouvelle stratégie de défense, celle d'assumer d'avoir peut-être commis un délit, mais sans en avoir eu ni l'intention ni la connaissance. Ainsi, Marine Le Pen affirmait devant les juges n'avoir jamais eu le sentiment d'être en faute, mais rejette surtout la responsabilité sur le Parlement européen, considérant qu'il n'a, je cite, pas joué son rôle d'alerte sur le sujet des assistants parlementaires.
Maïalène Trémollet, une proposition de loi LR visant à interdire à tout parent d'imposer ou d'autoriser sa fille mineure à porter le voile dans l'espace public, rejetée aujourd'hui par les députés en commission. Un texte seulement soutenu par le RN et par une partie des députés Renaissance. Un nouveau débat aura lieu en séance lors de la niche parlementaire des Républicains la semaine prochaine. Les syndicats de la pénitentiaire estiment qu'un point de non-retour a été atteint au lendemain d'une découverte particulièrement inquiétante dans l'enceinte de la maison d'arrêt de Lons-le-Saunier dans le Jura. Un colis livré par drone retrouvé dans la cour de promenade de l'établissement. À l'intérieur, une arme à feu et des munitions. Le choc est immense. Jean-Luc Boujon, tout porte à croire qu'un drame a été évité de justesse.
Et oui, parce que ce colis trouvé dans la cour de promenade par les surveillants et contrôlé au rayon X a révélé la présence d'un pistolet 6.35, petit calibre que l'on peut glisser dans un sac à main, mais vraie arme à feu, d'un chargeur garni de 3 cartouches et d'une lame de scie à métaux. Inquiétant quand on pense à ce qui aurait été possible de faire pour un détenu avec cette arme, explique Romain Bernier, délégué régional UFAP.
Ça fait peur et ça fait bien longtemps qu'on alerte sur le risque de voir l'introduction d'une arme à feu dans la mesure où c'est un peu rentré dans les mœurs, si vous voulez, qu'il y ait des téléphones, qui est de la drogue. Il y en a tellement que c'est devenu presque quelque chose de normal. Et là, ça y est, on a franchi un point de non-retour. Hein. Une arme à feu qui a été introduite. Vous imaginez bien que ce n'est pas pour appeler son cousin. Hein. C'est soit pour prendre en otage un personnel, soit pour faire un règlement de compte, ou pour pouvoir s'évader. Hein.
Alors, on ignore pour l'heure qui était le destinataire de ce colis, mais une importante opération de fouille des cellules a été organisée dans les heures qui ont suivi. Une enquête a également été ouverte, confiée à la division de la criminalité organisée de Dijon. Alors que le garde des Sceaux Gérald Darmanin suit de très près ce dossier, lui qui continue de mettre en avant son plan zéro portable en prison, qui prévoit notamment l'installation de brouilleurs ou de filets anti-drones dans 6 prisons françaises, dont celle de Dijon.
Jean-Luc Boujon, un parent n'a toujours pas le droit de frapper ni d'insulter son enfant. Dans un arrêt rendu aujourd'hui, la Cour de cassation réfute toute existence d'un droit de correction parentale en France. La plus haute juridiction annule ainsi la relaxe par une cour d'appel d'un père de famille jugé pour avoir giflé, donné des fessées, étranglé et injurié ses 2 enfants pendant plusieurs années. Vous écoutez Europe 1, il est 22h13, une biographie croisée de 2 monstres de la bande dessinée disponible en librairie. L'histoire d'Hergé, le créateur de Tintin, et d'Edgard P. Jacobs, à qui l'on doit Black et Mortimer. Une rivalité artistique aussi forte que l'amitié entre les deux hommes et un ouvrage quasi sacré pour tous les amoureux de BD, Sébastien Bordenave.
Ils sont les 2 monstres sacrés de la ligne claire belge. Leurs dessins originaux battent des records lors des ventes aux enchères. Il se vend encore tous les ans plus de 3 millions d'albums de Tintin dans le monde. Quant à Blake et Mortimer, l'auteur Edgard P. Jacobs n'a sorti que 11 albums en 40 ans parce que perfectionniste. La série est toujours en cours. Écoutez ce que dit Yves Saint, le scénariste du dernier Blake et Mortimer, La Menace Atlante, à propos de la rivalité Hergé-Jacobs.
Hergé voulait des dessinateurs de qualité à côté de lui dans le journal Tintin. Et en même temps, il était tellement habitué jusqu'au moment de la guerre à être quasiment le seul auteur de bande dessinée de Belgique, de France, enfin le plus connu. Il avait un peu peur que les autres lui fassent de l'ombre.
Car oui, Jacobs a été l'assistant d'Hergé. Il a donné de l'épaisseur au récit, magnifié ses couleurs. Mais quand Jacobs demande à ce que son nom figure sur les couvertures des Tintins et que Hergé refuse, il s'est consacré exclusivement à Blake et Mortimer. La rivalité pouvait alors commencer, mais l'amitié entre ces deux hommes n'a jamais cessé.
Sébastien Bordenave, et puis l'affiche de la prochaine soirée des Césars dévoilée aujourd'hui. On y voit le maître de cérémonie, l'acteur Benjamin Laverne, s'envolant dans le ciel. Une image tirée d'une scène culte du film Le sens de la fête d'Éric Toledano et Olivier Nakache en 2017. La 51e édition des Césars aura lieu le 27 février en direct et en clair sur Canal+. Europe 1 est partenaire de l'événement. La météo, désormais... avec vous Marlène Duret, un temps bien perturbé dans le nord-ouest demain.
Oui, une perturbation va arriver en fin de nuit, elle sera assez active et elle arrosera demain les régions allant de la Bretagne et des Pays de la Loire à la Normandie jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France avant de gagner la Vendée et le littoral charentais. Donc pas mal de pluies qui vont tomber d'ailleurs sur des sols déjà très humides, voire saturés. Voilà pourquoi le Finistère a été placé en vigilance orange, pluie inondation pour un début d'événement à 6h demain matin et valable jusqu'à 16h. Et puis d'autre part, on attend un coup de vent. Déjà le vent va se renforcer sur un grand quart nord-ouest. Mais entre le milieu d'après-midi et la soirée, il faut s'attendre à des rafales qui pourraient atteindre les 100 km à l'heure sur le littoral entre le Morbihan et la Loire-Atlantique, et 90 dans l'intérieur de la Bretagne. Côté température, eh bien, elle reste élevée malgré une baisse, donc on peut toujours parler de douceur, avec des maximales qui atteindront 9 à 13 degrés sur la moitié nord, avec 11 à Paris, et 10 à 15 sur la moitié sud, avec des pointes encore à 17, 18 degrés du côté du Pays Basque et encore.
Merci beaucoup Marlène Duret. Dans un instant sur Europe 1, on revient sur la situation en Iran avec cette possible intervention américaine dans les prochaines heures. Donald Trump n'a toujours pas tranché à l'heure où l'on parle. Et on parle également évidemment de cette répression sanglante. Plus de 3000 morts, c'est sûr, des dizaines de milliers selon certaines ONG. Un spécialiste pour évoquer cette situation, le journaliste spécialiste de l'Iran, Nasser Etmadi. À tout de suite.
Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1. Oui, vous avez le droit d'avoir une opinion.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko. Du lundi au vendredi, de 7h à 9h sur Europe 1. Europe 1.
La radio libre.
Renault. Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160€ par mois avec 5 740€ de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offerts.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2 700€. Prix maximum Certinergie déduite, si accordiaque. Troisième et quatrième loyer offerts. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault.
Europe 1 Nuit. Maël Hassani.
22h17, vous écoutez Europe 1 Nuit et j'accueille notre invité, le journaliste spécialiste de l'Iran, Nasser Etmadi. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Merci beaucoup de répondre à nos questions. Évidemment, la situation est dramatique en Iran. Elle est historique aussi puisqu'on s'attend peut-être à un véritable tournant. Des manifestations qui durent maintenant depuis 18 jours, une répression implacable. Au moins 3400 morts, probablement des dizaines de milliers si l'on en croit les estimations de plusieurs ONG. Tout d'abord, Nasser Etmadi, j'aimerais vous faire réagir à cette déclaration du ministre des Affaires étrangères iranien à la télévision américaine ce soir. Nous avons le contrôle total de la situation. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Ça veut dire que la répression a été, hélas, tellement efficace que les manifestants sont rentrés?
Non, pas vraiment. C'est M. Arachi, ce n'est pas la première fois en fait, qu'il tient ce type de propos. Il a même tenu les mêmes propos au premier jour de ce qu'on appelle ouvertement du carnage en Iran. C'est totalement infondé. Donc, les informations qui nous parviennent de l'intérieur de l'Iran, malgré la coupure totale d'Internet et même des télécommunications, font toujours état d'un véritable carnage, mais font également état de mobilisation de la population, malgré la terreur absolue, surtout depuis que le président américain a encouragé les Iraniens à continuer à manifester contre le régime islamique, voire occuper, si possible, les institutions.
Donc les déclarations récentes de Donald Trump encouragent les Iraniens à poursuivre ce mouvement et à peut-être aller jusqu'à renverser ce régime ?
On est en fait au début d'un processus, enfin au début, maintenant c'est la troisième semaine de la mobilisation générale en Iran, donc ce processus ne va pas s'arrêter. Les Iraniens réclament haut et fort, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, il faut voir également la mobilisation de la diaspora également a été très forte, voire sans précédent. Le soutien américain. Et ce soutien américain, effectivement, encourage la population iranienne désireuse de voir l'intervention militaire américaine contre les institutions et la tête de la République islamique pour faciliter la conquête de pouvoir et surtout la mise en fin à la théocratie en Iran.
Selon vos informations, Nasser Etemadi, les Iraniens, ceux qui descendent dans les rues avec un courage sans limite depuis maintenant plusieurs jours, attendent une intervention américaine. Ils la souhaitent, ils la demandent.
Ils le demandent, non seulement les Iraniens à l'intérieur du pays, même la diaspora, comme je vous ai dit il y a quelques instants, fortement mobilisée à travers le monde. Il y a eu des manifestations devant les consulats américaines en Europe, au Canada, où les Iraniens demandent directement le soutien en acte des États-Unis au peuple iranien, voire son intervention pour décapiter le régime islamique, tout simplement.
Pourtant, le peuple iranien a été éduqué par ce régime des mollahs dans une certaine hostilité, voire une haine complète à l'égard des États-Unis. Malgré cela, il n'y a pas de défiance aujourd'hui, en 2026, à l'égard d'une intervention de Washington.
Non. Écoutez, c'est la version que la République islamique a voulu en fait donner au monde. Là, on constate, et ce n'est pas la première fois, depuis une décennie, on constate la descente de la population massivement dans les rues, même s'ils sont à chaque fois, faute de soutien international, notamment de la part de l'Europe, y compris la France, réprimés dans le sang, comme aujourd'hui, pour justement montrer leur différence et leur hostilité contre la République islamique dans son ensemble, et surtout dans son hostilité idéologique fondamentaliste contre l'Occident, justement à travers leur slogan. Et leurs revendications, les Iraniens font état d'une société ouverte, moderne, désireuse d'ouverture et de relations avec le monde entier dans le pays de Proche et de Moyen-Orient, y compris Israël et surtout les États-Unis. Ils veulent la normalisation de leurs relations, des relations de leur pays avec l'Occident, avec les États-Unis, avec Israël, parce qu'ils savent que l'origine de tout leur malheur, ce qu'ils vivent aujourd'hui même, c'est le régime islamique qui n'est pas associable, identifiable aux Iraniens. Donc, c'est cette différence fondamentale que les Iraniens continuent à revendiquer à travers leur courage exemplaire, malgré du carnage et des morts qui comptent par des milliers aujourd'hui, selon les ONG internationales, pour dire que bon, voilà, l'Iran ne peut pas s'identifier à la République islamique et qu'il est temps de mettre fin à un régime fondamentaliste, archaïque, réactionnaire, qui est non seulement l'origine de tous les malheurs des Iraniens, mais de tous les peuples de la région.
Vous avez vous-même mentionné Nasser Etemadi, je rappelle aux auditeurs d'Europe 1 que vous êtes journaliste spécialiste de l'Iran, vous avez vous-même évoqué l'inaction des Européens, de la France. Ça, c'est une déception pour les Iraniens ?
Effectivement, mais surtout si cette inaction vient également de la part des États-Unis, c'est également une source de déception. Malheureusement, on constate que cette inaction en France est palpable, malgré la mobilisation l'attention portée par le média aux événements en cours, surtout au niveau institutionnel, c'est palpable, et que bon, les Iraniens, ils demandent plus que la déclaration de soutien verbal, des actions concrètes qui aideraient les Iraniens à mettre fin à ce régime, on voit bien, barbare, qui n'a aucun retenu de, quand il s'agit en fait de massacrer les manifestants dans les rues, et que bon, pour se maintenir au pouvoir, il procède à des violences pour et simples.
Alors, pour expliquer cette inaction française, peut-être cet embarras parfois dans une partie de la classe politique, vous, Nasser Etemadi, qui êtes évidemment un éminent connaisseur de l'histoire de l'Iran, est-ce qu'il faut aussi y voir une certaine culpabilité de la gauche qui a été à l'origine, à la fin des années 70, peut-être qui a joué un rôle dans l'avènement de la République islamique ?
Bon, malheureusement, la même position, on le constate aujourd'hui, la gauche française, malgré la diversité de ses courants, apparaît passif face à l'ampleur des événements et des massacres en cours en Iran. Lorsqu'elle prend position, cette position reste très en deçà de la gravité de la situation. Elle affirme sa solidarité, certes, avec le peuple iranien, et ses revendications, mais en même temps, elle manifeste surtout une forte réticence à toute perspective d'intervention américaine. Cela au nom de principes souvent liés à l'anti-impérialisme d'antan ou au respect de droit international, peu importe. Cette posture, malheureusement, est aujourd'hui partagée, non pas seulement par la gauche française, mais également par la gauche occidentale. Vous allez en Angleterre, c'est la même chose. Et cette posture aboutit en quelque sorte à un angle mort politique aujourd'hui en Europe et y compris en France. Pourquoi ? Parce que en refusant d'envisager toute pression décisive sur le régime iranien volant de l'extérieur, en particulier des États-Unis, cette position en fait risque de conforter, même indirectement, même inconsciemment, la stratégie des mollahs, qui invoque justement les mêmes prétextes pour condamner ingérence étrangère, pour finalement justifier une répression sanglante qui se passe actuellement sous nos yeux auprès et contre la population civile iranienne. Donc il faut préciser que bon, cette posture n'est pas propre à la gauche française, comme je l'ai dit il y a un instant, ni même à la gauche européenne dans son ensemble. On retrouve malheureusement, et ce qui est plus grave peut-être, sous une forme institutionnelle, cette même attitude du côté de l'État français et plus largement de la plupart des gouvernements européens. Une condamnation verbale, parfois même ferme, de la barbarie du régime islamique, mais un refus ou de moins évitation de toute mesure concrète et déterminante qui pourrait mettre fin au carnage en cours en Iran, comme vous l'avez précisé vous-même, les morts comptent par milliers, on n'a pas le nombre exact.
Peut-être dizaines de milliers, les chiffres sont voilà. Absolument glaçants. Voilà. Il faut maintenant parler de l'après, s'il y a un après, si ce régime des mollahs venait à s'effondrer dans les prochaines heures, Nasser Etemadi. Évidemment, il y a un nom qui revient beaucoup, c'est celui du fils de l'ancien Shah d'Iran, le prince Reza Pahlavi, qui est actuellement réfugié aux États-Unis. Et c'est vrai que son nom est scandé aux quatre coins de l'Iran depuis le début de la révolte. Alors, quel est le profil de cet homme et est-ce que c'est une alternative crédible et souhaitable pour le peuple iranien ?
Écoutez, est-ce crédible ? Il faudra démontrer par des millions de gens qui sont dans les rues aujourd'hui, en Iran, au risque de leur vie. Quand les gens sont prêts à se faire ou se mettre au risque de mourir, à donner par milliers de morts, parce qu'ils ont répondu à l'appel d'une personne à descendre dans la rue pour mettre fin à la tyrannie islamique, cela montre que, bon, voilà, il y a une certaine, plus que ça, même, une crédibilité politique. Et qu'est-ce que c'est une crédibilité politique, si ce n'est qu'en fait, une foule, une masse importante, surtout dans une société iranienne, porte les valeurs exprimées par quelqu'un qui est aujourd'hui dans la position, disons, les choses clairement de leadership politique. Mais je voudrais en même temps préciser que ce que nous vivons aujourd'hui en Iran ne relève ni d'une simple succession de pouvoir, ni d'une alternance politique comparable à ce que on observe, par exemple, dans un système démocratique comme en France. Donc, il s'agit plutôt d'une rupture radicale. On disait dans le temps, en fait, un processus révolutionnaire dont l'objectif est mettre fin au régime tyrannique des mollahs en Iran, mais cette rupture marque également le début d'un processus très complexe et exigeant. Donc, il faudra, après les mollahs, dans un premier temps, assurer la gestion des affaires courantes d'un pays aussi vaste et stratégique que l'Iran, un État trois fois plus grand que la France et peuplé de près de 90 millions d'habitants. Donc il faudra ensuite mettre en place des institutions ad hoc, organiser des élections libres pour constituer une assemblée constituante. Donc rien de tout cela ne se fera pas dans le vide. Donc l'Iran n'est pas un pays vide de tout continu. C'est un pays très ancien, riche de plusieurs millénaires d'histoire et de culture, et de tradition. Et dans ce contexte, la figure qui apparaît aujourd'hui en mesure d'incarner et de porter ce processus, c'est bien Reza Pahlavi.
Vous avez évidemment décrit ce grand peuple iranien, Nasser Etemadi, dont on parle sur Europe 1, on le dit depuis fin décembre, depuis le début de ces révoltes. Vous étiez d'ailleurs à l'antenne d'Europe 1 dès le 1er janvier, me semble-t-il, pour en parler. Et on va continuer à suivre cette situation avec vous. Merci beaucoup d'avoir été l'invité d'Europe 1 Nuit en ce mercredi soir. Et à 22h31, on retrouve Valérie Darmon pour la Libre Antenne. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Maël, bonsoir à tous. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles informations à 23h, comme tous les soirs.
Absolument,
à tout à l'heure.
Cette semaine, Europe 1 avec Salin Holidays vous offre un voyage féerique pour deux au Vietnam.
Admirez les paysages du delta du Mekong.
Explorez la cité impériale de Hue.
Et naviguez dans la baie d'Along.
Un périple captivant de 11 jours, alliant histoire, culture et nature.
Pour tenter de gagner cet incroyable voyage, rendez-vous toute cette semaine à 7h20 sur Europe 1.
Rencontrez le monde avec Salin Holidays.
Leclerc, bonjour.
Vous me confirmez la promo sur la brioche à riz?
Tout à fait, moins 68% sur la deuxième.
Merci. Allez, aujourd'hui, c'est moi qui régale pour le goûter. Ouais, ouais,
ouais. Faites plaisir à tous les gourmands, car du 13 au 24 janvier, pendant les super pouvoirs d'achat, pour l'achat d'un paquet de brioches tranchées à riz pépites de chocolat, le deuxième est à moins 68%.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Merci à Catherine. Merci à Nicole, André, Mireille ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur legs en faveur du Secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un legs au Secours catholique. Demandez votre brochure legs auprès de Pascal en appelant le 0805 212 213 ou sur legs.secours-catholique.org.
La Libre Antenne.
Valérie Darmon.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin sur Europe 1 en direct, comme tous les soirs. Florian et Julia prennent vos appels au standard au 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé. Vous pouvez nous écrire aussi au 7 39 21 par précédé du mot nuit, par SMS, 75 centimes plus coût du SMS, donc 7 39 21. Vous pouvez nous joindre sur la page Facebook de l'émission et par mail à l'adresse libreantenne@europe1.fr. Laurent Pellet réalise votre émission. Moi, je suis toujours à votre service et j'en suis absolument ravie. Comme toujours, je commence votre Libre Antenne de ce jeudi, je crois, ou de ce mercredi, pardon, parce que je suis évidemment décalée, compte tenu qu'habituellement, c'est Roland Pérez qui officie. Donc je commence par une citation. « La vie, c'est ce qui vous arrive alors que vous étiez en train de prévoir autre chose. » Ces mots sont ceux de Jeanne Moreau. La Libre Antenne, c'est tout de suite sur Europe 1.
La Libre Antenne.
22h30, 1h, Valérie Darmon sur Europe 1.
Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 pour nous parler d'amour et nous parler de passion. C'est bien cela ?
Tout à fait, c'est ça.
Voilà, vous avez su allier les deux. Alors déjà, vous avez quel âge, Marie, et vous habitez où ?
Alors, moi j'ai 33 ans et j'habite à Haguenau, dans le Bas-Rhin.
Dans le Bas-Rhin, d'accord. Alors on commence par l'amour, on commence par la passion, quoique les deux se rejoignent un petit peu. Dans votre récit, on commence par quoi ?
Alors écoutez, on peut commencer par l'amour.
Allez, bien sûr, la plus belle des religions, c'est celle de l'amour, n'est-ce pas ?
Tout à fait.
Alors je vous écoute.
Alors moi je suis en couple avec Maxime, qui était comme moi avant ingénieur. On a fait une école d'ingénieur sur Strasbourg et de notre relation est née, on va dire, oui, une passion pour les jeux de société, ou même on l'avait déjà un petit peu avant. Et de fil en aiguille, en fait, on a changé complètement de vie, tous les deux, et on a ouvert un bar à jeux de société sur Haguenau.
Et vous vous êtes connus autour d'un jeu de société ? Comment vous vous êtes connus avec Maxime ?
Alors, on s'est connus en période un peu difficile, en période de Covid. Du coup, on s'est connus par une application de rencontre. Voilà, et en échangeant et en racontant tout ce qu'on aimait, etc. Ben on a vu que tous les deux, on adorait les jeux de société et qu'on était des grands, grands joueurs de jeux de société.
Et c'est ce qui vous a rapproché. Jeux de société ou jeux de rôle, ou les deux ?
Alors, jeux de rôle, pas du tout. Enfin, pour moi, pour ma part. Pour Maxime, par contre, oui, lui, jeux de rôle, jeux de figurines, jeux de société, jeux vidéo aussi. Moi, c'est plus jeux de société, plutôt les jeux d'ambiance, les jeux où on se retrouve autour d'une table pour rigoler. Lui, c'est plus les gros, gros jeux de société. Mais du coup, on a, comment dire, chacun a montré ce que l'autre aimait. Et puis, ça a bien matché aussi à ce niveau-là.
Et vous étiez ingénieur en quoi ?
Marie. Alors moi, j'étais ingénieure en BTP, donc j'étais dans le bâtiment.
Oui. Rien à voir.
Et Maxime était ingénieur en plasturgie, en impression 3D.
D'accord. Voilà. Donc vraiment, absolument rien à voir avec le monde des jeux de société. Vous jouiez combien de fois par semaine, vous, de votre côté, Marie, à l'époque ?
À l'époque, j'avais plus de temps pour jouer, mais du coup, on jouait tous les jours.
Tous les jours quand même, hein ?
Tous les jours.
Et depuis toujours, tous les jours, depuis petite ?
Alors, depuis petite, personnellement, non. Je jouais souvent avec ma grand-mère ou avec mes autres grands-parents quand on était en vacances chez eux, etc. On jouait aux jeux de société, donc plutôt les jeux de société, on va dire les classiques, les grands classiques,
le Scrabble,
le Monopoly, le Triomino, le Uno aussi, les jeux de cartes, tous ces jeux-là. Et je jouais également beaucoup aussi avec mes parents, mais vraiment des jeux, on va dire qu'on appelle maintenant des jeux rétro, puisque maintenant, c'est vrai que le monde du jeu de société s'expand et il y a de plus en plus de jeux de société. Et nous, dans le bar, on en a 850.
Donc c'est 850. Pour dire. Ah oui, effectivement. Ouais. C'est à peu près tout ce que comporte le marché, ou il y en a beaucoup plus sur le marché ?
Oh, il y en a beaucoup, beaucoup plus sur le marché.
Ah, c'est incroyable. Donc ça veut dire qu'on fait de plus en plus preuve de créativité ?
Oui, tout à fait. Et puis surtout, qu'il y a énormément de demandes auprès. Enfin, les gens veulent jouer, veulent faire des nouveaux jeux, veulent découvrir des nouvelles choses. Et c'est super intéressant.
Et la moyenne d'âge des personnes qui fréquentent votre bar à jeux, c'est quoi ?
Alors, la moyenne d'âge, on va dire que ce serait entre 30 et 40 ans. Mais on est vraiment un lieu intergénérationnel. Ça veut dire que, à côté d'une table avec une famille et des enfants en bas âge, il peut y avoir un couple qui a la cinquantaine. Il y a aussi des familles qui viennent avec leurs ados ou leurs jeunes adultes qui se retrouvent tous ensemble en famille. Il y a aussi des groupes de jeunes. Enfin voilà, c'est vraiment, on a vraiment essayé de créer un lieu où tout le monde se sente bien et surtout que tout le monde en fait y trouve son compte, quoi.
Et se rencontre, voilà. Surtout, c'est un vecteur de lien, non, j'imagine, cet endroit.
Ah, oui.
Je ne sais pas si c'est grand, la ville où vous habitez, à Guenot, c'est grand, c'est petit
Alors, à Guenot, c'est 35 000 habitants.
Oui.
Voilà.
D'accord. Donc,
c'est une ville, oui, on va dire moyenne. Voilà, tout à fait. Dans le bar, nous, on a à peu près une centaine de places. Voilà. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire.
Non, je disais, c'est un lieu qui est vecteur de lien. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question de la taille de la commune. Parce qu'en fait, est-ce qu'il y a beaucoup de bars à jeux en France ? C'est un domaine que je ne connais pas du tout. Je trouve que votre intervention peut donner vraiment des idées. Moi, la première d'ailleurs. Parce que je trouve que c'est du ludique. Ça crée de l'amitié parce qu'on se retrouve autour d'une table. On se retrouve en réel, on n'est pas en virtuel. Et on rit ensemble. Et donc, quand on rit ensemble, le rire peut vaincre la timidité et l'appréhension qu'on peut avoir au départ. Et en plus, vraiment, le jeu peut faire tomber toutes les barrières. Et vous le disiez, hein, c'est un lieu aussi intergénérationnel.
Tout à fait, ouais. C'est vrai qu'on est un lieu un peu hors du commun, on va dire, par rapport à un restaurant ou un bar classique. Alors, pour répondre à votre question, en France, il y a une centaine de bars à jeux qui sont ouverts. Bien sûr, il y en a beaucoup plus dans les grandes villes, sur Paris, sur Strasbourg aussi, on en a également beaucoup. Et c'est vrai que c'est des lieux de rencontre, puisque nos fidèles clients, on a un panel de fidèles, enfin de clients qui reviennent parce qu'ils adorent jouer, parce que voilà, ils adorent l'ambiance, etc. Ça leur donne un quelque chose, une expérience. Voilà, une expérience client différente. Et c'est vrai que dans notre bar, on a vu créer des relations, des gens qui sont devenus meilleurs amis. Alors que de base, ils ne se connaissaient pas, ils se sont rencontrés dans notre bar. Donc ça, c'est franchement génial. Enfin, moi, ça m'émeut à chaque fois que je vois ça. Et on a aussi des gens qui se sont rencontrés et qui, pour le moment, ont créé une relation amoureuse. Et ça, c'est encore plus beau.
C'est encore plus magique, hein. Surtout que votre idée, elle vient aussi de la constitution de votre couple à tous les deux. Comment on fait pour basculer du monde des ingénieurs à cette aventure qui, vu de l'extérieur, est quand même incroyable? Elle est dingue.
C'est vrai qu'on ne s'est jamais vraiment posé la question, mais je pense qu'on a arrêté déjà notre métier d'ingénieur parce que c'est quelque chose qui ne nous correspondait pas. Même si on faisait très très bien notre travail, etc., c'était vraiment une routine métro-boulot-dodo, comme j'ai envie de dire. Et là, dans le jeu de société et dans le fait aussi d'expliquer les jeux aux gens et d'avoir un relationnel avec les gens qui va au-delà du service de restauration, parce qu'on a vraiment un échange avec nos clients, c'est du travail passion, en fait. On n'a pas l'impression qu'on travaille, en fait. On a l'impression qu'on va dans un endroit... Voilà,
que vous jouez au jeu de la vie.
C'est ça, tout à fait.
Vous avez démissionné en même temps ou quand même l'un après l'autre pour prendre moins de risques? Je vous pose cette question pour toutes ces personnes qui nous écoutent ce soir et qui ont peut-être envie de se reconvertir ou de changer de vie, et il y en a beaucoup, et qui n'osent pas.
Tout à fait. En fait, nous, on l'a fait en même temps. Mais voilà, c'était pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui a germé dans nos têtes. On a préparé notre projet alors qu'on travaillait encore en tant qu'ingénieur et on a réussi encore à garder notre job et à faire les choses bien. Mais surtout, ce qui était important pour nous, c'était d'être complètement transparent avec les personnes qui nous employaient. Qu'on leur explique que voilà, là, on était dans une démarche tout autre, on continuait à travailler, mais que il y aurait incessamment sous peu un changement de notre part, quoi. Et ça s'est très très bien passé.
Ah, ils ont bien accueilli l'initiative. Ils vous ont pas dit, mais c'est quoi cette lubie d'aller ouvrir un bar à jeu ? Pas du tout.
Non, pas du tout.
Est-ce qu'ils vous ont un petit peu envié, mais dans le sens positif du terme ?
Non. Mais non, j'ai pas l'impression. Je sais pas. Je n'ai pas posé la question. Mais c'est vrai que. Non, j'ai pas posé la question.
Et les anciens collègues de travail, ils viennent jouer ? Ils viennent au bar à jeu ou pas ?
Alors, moi, j'étais pas dans le coin d'Aguenau. Donc, ils sont venus quelques fois comme ils pouvaient, quoi. Puisque c'était pas à côté. Mon conjoint aussi, ils sont déjà venus plusieurs fois le voir comment c'était, puis jouer, puis venir avec leurs enfants, quoi. Donc ouais, c'est chouette.
Est-ce qu'on en vit bien ou pas, Marie ?
Bah écoutez, oui, on en vit bien.
D'accord.
On en vit bien.
Est-ce qu'on en vit aussi bien que quand on est ingénieur ?
Alors ça, c'est réaliste. Faut rester réaliste. On n'en vit pas aussi bien que quand on est ingénieur. Quand on est ingénieur, c'est vrai qu'on a un très très bon salaire, voilà. Mais après, on arrive à en vivre. Et puis c'est surtout le plaisir de se lever le matin. Et puis d'échanger avec des gens et de voir du monde et de montrer notre passion et de faire en sorte que les gens aussi, eux, passent un très bon moment chez nous. Donc voilà.
De tisser les liens, en fait, hein, c'est ça.
C'est ça, tout à fait.
Oui. Comment s'appelle votre lieu ?
Alors, mon lieu, il s'appelle La Mauvaise Joueuse.
Ah, parce que vous êtes une mauvaise joueuse.
Alors oui, ça a commencé comme ça. Je suis une très mauvaise joueuse. Mais au fur et à mesure, à force de jouer avec Maxime et puis d'expliquer les jeux et puis etc. Je me soigne, j'ai envie de dire.
Voilà. Vous êtes moins mauvaise joueuse. En tout cas, vous avez gagné là sur ce projet. Vous êtes gagnante sur le projet. En tout cas, non, il me semble.
Voilà, c'est ça. C'est ça, tout à fait.
Oui, parce que j'entends le sourire dans votre voix. Vous avez des enfants ?
Alors non, on n'a pas d'enfants. On n'a pas d'enfants, mais on a un petit chien qui s'appelle Snappy. Voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est une question qu'on se pose. On a ouvert le bar là, depuis 3 ans et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose et qui risque incessamment sous peu de venir à une bonne conclusion, je l'espère.
Est-ce que vous, parce que là vous travaillez en équipe, une équipe de deux avec votre compagnon, est-ce
Tout
que vous travaillez avec une équipe élargie, c'est-à-dire les grands-parents, parce que ce sont eux finalement qui vous ont un petit peu initié au jeu de société ?
Alors, on travaille justement en famille. Donc, on travaille avec le frère de mon conjoint, le cousin de mon conjoint aussi, qui a quitté sa Bretagne natale pour venir nous aider. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et il y a aussi la maman de mon conjoint qui nous aide aussi beaucoup sur tout ce qui est également cuisine et puis choisir des nouveaux plats, etc. Voilà, donc on est une bonne équipe,
une équipe
bien
gagnante,
soudée.
Ouais. Une équipe gagnante et en confiance, vous travaillez en famille, donc forcément.
C'est ça, tout à fait.
Et au 739-21, 75 centimes plus coût du SMS, Sylvain pose la question. Ayant été bénévole dans une cafette sans alcool, je trouve votre idée très intéressante, nous dit-il. Est-ce que l'on peut consommer à boire dans votre bar à jeux ou on y joue seulement à des jeux de société ? Alors on peut y manger, parce que vous venez de le dire. Et pour le reste ?
Alors, justement, on fonctionne comme un bar ou comme un restaurant classique. On a de quoi manger, donc on a essayé de cibler sur des choses un peu locales, de la tarte flambée, des hot dogs avec de la knack, parce que c'est important pour nous de faire quelque chose de local. On ouvre aussi le midi, donc on fait un manger de midi comme un restaurant classique. Et en fait, le bonus, c'est les jeux, quoi.
Ah oui, donc voilà. On peut venir juste se restaurer, on peut venir juste boire et on peut jouer en plus si on en a envie, voire faire les trois.
C'est ça. Et en plus, ce qu'on propose, c'est qu'on a un énorme planning d'animation. Le mercredi, on fait des blind tests. Le jeudi, on fait des quiz ou des loups-garous. Le vendredi, on fait des blind tests. Le samedi, on fait des tournois de fléchettes, d'échecs, de Uno, de Skyjo. Le dimanche, on fait des brunchs. Enfin, voilà, on fait plein de choses tournées vers le jeu et où les gens peuvent, en fait, se rencontrer. Et c'est vrai qu'il y a eu énormément de rencontres lors des loups-garous et lors des blind tests.
C'est quoi les loups-garous ?
Alors, les loups-garous, c'est un jeu, on va dire, de rôle, entre guillemets. C'est un jeu, en fait, où chaque personnage incarne un villageois ou un loup-garou ou un personnage spécifique. Et en fait, je ne sais pas si vous... Je pense que vous ne connaissez pas du tout, mais en fait...
Ça se voit comme ça ? Ah oui ! Vous avez raison, figurez-vous. Moi, je me suis arrêtée au Scrabble. Donc...
Ouais, en fait, le loup-garou, c'est il y a un maître du jeu qui tous les villageois s'endorment, qui font s'endormir tous les villageois et qui appelle les rôles au fur et à mesure. Et en fait, l'objectif du jeu, c'est que les villageois tuent les loups-garous et que les loups-garous tuent tous les villageois. Donc l'objectif, c'est voilà, il y a un petit peu une guéguerre au sein du village.
Oui, et donc on se rencontre forcément. Qui est-ce qui fait les animations ? C'est vous ? C'est Maxime ? C'est vous deux ?
Alors. On le fait tous. En fait, ce qui est vachement bien, c'est que même le frère et le cousin, on est tous polyvalents. Donc, on sait faire la cuisine, on sait gérer le bar, on sait faire le service, mais on sait aussi expliquer les jeux. On en a 850 et on les a tous testés. On fait aussi les animations. Donc, il y en a qui ont des préférences pour telle et telle animation. Par exemple, Julien, le cousin, et moi, on est des férus de blind test, donc on anime souvent les blind tests. Mathis, ça va être plus, donc ça c'est le frère, Mathis, ça va être plus les loups-garous. Et Maxime, c'est vraiment tout ce qui est quiz, tout ce qui est jeux géants, tournois, etc. Ça c'est vraiment lui qui anime tout ça.
Mais Marie, vous vous ennuyez absolument jamais, vous, dans votre vie, non ?
Non, on s'ennuie pas, effectivement. Effectivement, on s'ennuie pas. Ça commence tôt le matin et ça finit très très tard le soir, donc on s'ennuie pas du tout.
Vous vous êtes interrogé, je pense à ceux qui n'osent pas, vous vous êtes interrogé combien de temps avant de lancer ce projet avec Maxime ?
Alors, le projet, je pense... alors, pour s'interroger, on a dû s'interroger au moins 6 mois, voire 8 mois. Pour voir ce qui était viable ou pas et si on était vraiment motivé. Et après, on a foncé. Et puis, en fait, à chaque étape, enfin, il y avait des difficultés un peu par-ci, par-là, trouver un local, avoir une licence 4 pour servir de l'alcool, pouvoir après faire des travaux dans le local, combien ça va coûter, etc., etc. Donc à chaque fois, on avançait étape par étape. Et c'est vrai qu'on a quand même mis, avec la réflexion, plus tous les travaux et tout ce qu'il fallait mettre en place, on a quand même mis 2 ans à pouvoir se dire, bah là, maintenant, c'est bon, on a tout qui est ouvert, allez, on ouvre, c'est parti.
Ah oui, 2 ans. Donc pendant ces deux ans-là, vous avez continué de travailler.
On a continué tous les deux de travailler et en parallèle, le soir ou à notre pause de midi, bah, on avait les coups de fil pour gérer, c'est ça.
Qu'est-ce que vous diriez, Marie, ce soir, à ceux qui nous écoutent et qui n'osent pas sauter le pas ?
Bah, qu'on n'a qu'une vie, qu'on n'a qu'une vie et que si ça nous tient vraiment à cœur et si ça nous anime et qu'on sait que c'est la voie juste, faut foncer.
Et comment on sait que c'est la voie juste ? Tout un programme, hein ?
Ouais, mais en fait, c'est en n'essayant pas qu'en fait, on se dit que il faut essayer, quoi.
C'est en faisant qu'on sait, c'est ça que vous voulez dire.
C'est ça, oui. C'est ça, tout à fait.
Oui. On va à droite, on gagne, on va à gauche, on gagne, on reste sur place, on perd.
C'est ça, tout à fait. En tout cas, à toutes ces personnes qui n'osent pas, mais surtout qui sont mal là où ils sont actuellement, il faut y aller, quoi. Enfin, il faut pas rester comme ça. Il faut bouger et essayer et puis tant pis si c'était pas la bonne voie, il y en aura une autre et puis
voilà. Oui, de toute façon ça nous amène forcément quelque part et puis au début c'est comme les enfants qui apprennent à marcher, au début on rate et puis après on rate moins de toutes les manières.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Alors vous travaillez avec votre compagnon et vous vivez avec votre compagnon, vous faites tout avec votre compagnon, vous jouez avec votre compagnon. La fusion, ça se passe comment? Vous étiez déjà fusionnelle avant?
Oui, on était déjà très très fusionnels avant, et c'est vrai que là maintenant on travaille ensemble, mais en fait on a chacun nos parties dans le bar, et on a quand même des moments où on n'est pas tout le temps ensemble, mais on a toujours été très très fusionnels comme ça dès le démarrage de notre relation en fait. Donc voilà, nous c'est quelque chose qui nous convient.
il vaut mieux parce que là, c'est dommage. Hein, si ça ne vous convient pas, là, il faut vite se réorienter hein, tout de même.
C'est ça.
Donc, ça veut dire qu'il faut de toute façon être... Parce qu'on a souvent tendance à dire, en tout cas les psys, que fusion égale dépression, égale explosion. Enfin, fusion, explosion, dépression, souvent. Vous, ce n'est pas du tout le cas. Vous assumez la fusion.
Oui, c'est ça. Alors, ça peut paraître décevant, on nous a dit qu'on était un peu trop ensemble, mais du coup, on a dit, c'est pas grave, on est trop ensemble, voilà, c'est comme ça.
Nous, on assume d'être ensemble tout le temps.
Voilà, c'est ça.
Puis ce sera plus pratique quand vous aurez des enfants aussi, hein. Ce sera plus pratique, finalement. Puis en plus, il y a toute la famille autour, donc ce sera encore plus que pratique. Oui.
C'est ça, ouais, on est bien entourés, ça c'est sûr.
C'était quoi votre rêve de petite fille? Parce que vous avez parlé de vos grands-parents, vous travaillez avec les parents, les cousins. C'était quoi votre rêve de petite fille?
Moi, mon rêve de petite fille, enfin, pas si petite que ça, mais mon rêve, c'était d'avoir un endroit où je pouvais recevoir les gens. Donc j'avais toujours en tête cette chambre d'hôte. Où je pouvais recevoir des gens, partager un repas avec eux, faire table d'hôte, etc. Et pourquoi pas, à terme, quand le bar aura bien vécu et qu'on voudra peut-être passer à autre chose, créer un lieu comme ça où on accueille les gens, dans notre chambre d'hôte, avec des jeux, avec des animations, avec des choses à découvrir.
Ah oui, on reste déjà... Voilà. Vous êtes déjà dans le projet d'après.
C'est ça.
Ah oui, vous êtes déjà dans le projet d'après, quand même. Ah oui, c'est toujours le lien, finalement. C'est l'accueil, c'est le lien, c'est la rencontre, c'est la curiosité qui vous motive.
Oui, tout à fait. Et puis faire découvrir aux gens quelque chose de nouveau, quelque chose qui leur fait passer un agréable moment.
Oui, vous donnez du plaisir, quoi, finalement, aux gens, hein, c'est ça?
C'est ça.
Est-ce qu'ils laissent de côté leur téléphone portable lorsqu'ils vont chez vous?
Alors, pas tous, parce qu'on n'y arrive pas. Mais franchement, quand ils sont pris dans un jeu, oui, effectivement, il n'y a plus personne qui touche à son téléphone. Quand on démarre un blind test ou qu'on démarre un quiz, il n'y a plus personne qui regarde son téléphone. Ils sont tous happés par l'animateur et par l'ambiance du bar. Donc, c'est vraiment quelque chose de sympa. Après, c'est sûr, le téléphone, on l'a toujours avec nous. Il faut toujours prendre en photo. Ça nous aide aussi quand les clients nous prennent en photo ce qu'ils mangent, à quoi ils jouent,
ah oui,
etc.
Bah oui, ils font de la communication après. Vous les utilisez pour la com. On vous trouve sur Instagram, vous avez un site. Donnez-nous les endroits où on vous trouve, s'il vous plaît, Marie.
Alors, on a un site internet qui s'appelle lamauvaisejoueuse.fr.
Oui.
On nous trouve également sur Instagram, sur Facebook, et voilà. Je pense que c'est déjà bien.
Et bah écoutez, un grand merci Marie d'être intervenue ce soir et nous avoir fait profiter de votre sourire dans la libre antenne d'Europe 1. Un grand, grand merci. Et puis longue vie à votre bar à jeu, la mauvaise joueuse installée à Haguenau. Merci Marie. Au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir. Et chers amis, notez que